Ainsi s'achèvent nos programmes de nuit. À suivre la semaine politique Europe 1. Je vais vous souhaiter un excellent week-end avec nous. On va se quitter sur le nouveau Vanessa Paradis et le premier extrait de son futur album qui sortira en octobre prochain. Ça s'appelle Bouquet final. C'est un titre composé par Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot sur des paroles de Dorian. Je vous embrasse.
Juste retour des choses comme une overdose. Mais c'est le bouquet final. C'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps. Mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte épicée, l'encre bleue me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants. Mais c'est le bouquet final. Bien de finir en beauté. Y'a le nom à père, ruban satiné. Sans vouloir jeter de fleurs. Y'a mes sentiments dont j'aimais t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y aimait plus le cœur. T'aimerais changer les choses. Comme on change l'eau des roses. Mon amour oublie ça, les fleurs. Ne triche pas. T'aimerais changer. Je t'envoie sur les roses que t'as déposées chez moi. Chez moi, chez moi. C'est toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié. Sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner. De me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur.
Téléchargez l'application Europe 1.
Tout Europe 1 dans votre mobile. La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez la semaine politique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question internationale, notamment la situation au Moyen-Orient et la question du conflit entre Israël et Gaza, avec évidemment le retour de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan en France, expulsée d'Israël. Et tout de suite, nous allons commencer par écouter le discours de Fabien Roussel, le patron du Parti communiste.
C'est avec émotion et gravité que j'ouvre cette conférence internationale pour les droits du peuple palestinien et la reconnaissance de l'État de Palestine que le Parti communiste français organise avec l'OLP, organisation à laquelle nous lie une longue et fraternelle amitié. Nos regards se tournent immédiatement vers Gaza, vers le peuple palestinien victime des massacres de masse, du nettoyage ethnique, de crimes contre l'humanité. Le peuple palestinien, victime d'un véritable génocide orchestré par le gouvernement d'extrême droite israélien de Benjamin Netanyahou. Il est temps d'agir concrètement pour faire cesser cette barbarie, cette violence meurtrière insupportable, cette violation totale du droit international. Il est temps d'agir agir pour mettre fin à la destruction totale de Gaza et au nettoyage ethnique de sa population, agir pour mettre un terme à ce blocus inhumain du territoire palestinien, à cette situation de famine qui menace plus de 2 millions de personnes piégées et bombardées. 80% de l'eau de Gaza est non potable. Seules 2 stations d'épuration fonctionnaient encore. Le gouvernement israélien vient d'en couper l'électricité. Tout est fait pour exterminer un peuple entier par la faim, par la soif, par la maladie. L'armée israélienne se livre à une politique de terre brûlée sur un territoire qu'elle a totalement, quasi totalement rasé. Gaza est devenu un trou noir humanitaire, un véritable cimetière à ciel ouvert. Et tous les Gazaouis sont aujourd'hui confrontés à la famine ou à la malnutrition. Face au génocide du peuple palestinien, la communauté internationale, la France, n'a pas le droit de fermer les yeux. Car l'objectif de cette politique de terreur menée par le gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou est d'effacer de la carte du monde le peuple palestinien. C'est ce que revendiquent ouvertement les ministres d'extrême droite du gouvernement israélien et c'est ce que soutient l'administration de Donald Trump. En Cisjordanie, à Jérusalem, les frappes de drones, les tirs de snipers contre des enfants, les incursions armées, les destructions de maisons, de champs, de villages par des colons. La violence des colons israéliens se déchaîne. Là encore, la volonté du gouvernement israélien est d'annexer illégalement ces territoires et de les vider de leur population palestinienne. Il est urgent de faire appliquer les décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. La place de Benjamin Netanyahou est devant un tribunal et derrière les barreaux. Oui, sa place est derrière les barreaux. Tout comme d'ailleurs les auteurs des crimes terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, nous les avons condamnés avec force et nous les condamnons encore. Ils sont utilisés, ces crimes, par le gouvernement Netanyahou pour effacer le peuple palestinien, raser Gaza, accélérer la colonisation dans les territoires occupés, comme à Jérusalem. Nous sommes ici rassemblés pour dire avec force les massacres, les crimes contre l'humanité, le génocide doit prendre fin. Et pour cela, il est temps d'agir. Les mots ne suffisent plus. Il faut que le gouvernement français use de tout son poids pour que l'Union européenne suspende l'accord d'association avec Israël tant que celui-ci piétine le droit international et massacre la population de Gaza. La France peut prendre elle-même la décision de rompre toute relation commerciale avec Israël et mettre fin à l'importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés. Et nous sommes ici, surtout, pour dire qu'une solution politique existe. Et elle est connue depuis 1947. 2 États pour 2 peuples. Un État de Palestine pour le peuple palestinien. Un État d'Israël pour le peuple israélien. L'OLP, par la voix de Yasser Arafat, a proclamé l'État de Palestine en 1988. Et Yasser Arafat est venu à Paris peu de temps après pour l'annoncer et demander à la France de le reconnaître. Il a été reçu en ce lieu même par Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti communiste français. Depuis toujours, nous avons été auprès de l'OLP pour défendre ensemble l'existence d'une Palestine libre, démocratique et laïque. Et aujourd'hui, c'est bien de cela dont nous parlons. Il ne s'agit pas seulement de défendre la liberté et l'indépendance du peuple palestinien, car c'est son existence même qui est en cause, qui est menacée. Alors oui, il y a urgence. Aujourd'hui, 148 États ont reconnu l'État de Palestine. Des institutions internationales l'ont reconnu. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré il y a quelques jours que la reconnaissance de l'État de Palestine était, je le cite, un devoir moral et une exigence politique. On ne peut qu'apprécier ce changement de ton de la diplomatie française. Mais il faut passer aux actes maintenant, car il y a urgence. Il faut reconnaître immédiatement l'État de Palestine. Et sans condition. Et sans condition. Cet acte ne serait pas uniquement une déclaration symbolique, ce serait un acte hautement politique. Ce serait faire entrer de plein droit la Palestine dans la communauté des nations. Ce serait reconnaître qu'il existe une représentation légitime du peuple palestinien à travers l'Organisation de libération de la Palestine. Ce serait dire qu'il existe un interlocuteur légitime pour mettre en œuvre une solution politique fondée sur le droit et la justice avec l'autorité palestinienne. Ce serait reconnaître qu'il existe un territoire palestinien qui doit être gouverné d'une manière indépendante et d'un seul tenant avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Et ce serait reconnaître enfin qu'il existe un peuple, le peuple palestinien, qui porte des exigences de libération nationale et d'autodétermination pour vivre en paix avec ses voisins. Autant de réalités niées par le gouvernement israélien qui, en plus de commettre des crimes contre l'humanité, déstabilise dangereusement, totalement, cette région du monde. Le but est bien d'arriver à une solution où les deux États souverains, vivant côte à côte et en sécurité, soient mutuellement reconnus par tous les États de la région. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas une fin en soi, c'est un début. Un début pour faire appliquer le droit international, la fin de la colonisation, la fin de l'occupation, et le droit au retour des réfugiés. Et pour cela, nous avons un interlocuteur politique pour construire cette solution. Il s'agit de l'Organisation de libération de la Palestine. Et vous aurez remarqué que nous n'avons pas choisi cette date du 4 juin au hasard. La date du 4 juin renvoie évidemment au 4 juin 1967, veille de l'offensive israélienne qui allait occuper Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Oui, les frontières de 1967 sont bien notre référence. Chers amis de l'OLP, vous le savez, le Parti communiste français est avocaté à vos côtés depuis 5 décennies. La première rencontre entre les directions de nos deux organisations remonte à 1975. Vos exigences et votre objectif, celle de la charte que vous avez donnée à l'OLP, sont les bases de la lutte que le Parti communiste porte pour les droits nationaux du peuple palestinien, pour un État démocratique vivant selon les principes de la coexistence pacifique de la Charte des Nations Unies. Pour reprendre les mots de la Déclaration d'indépendance de 1988, une patrie libre pour un peuple d'hommes et de femmes libres. Et c'est au nom de ces principes que les communistes français sont si attachés et si mobilisés pour les droits nationaux du peuple palestinien. Et c'est sur cette base que nous avons travaillé à une déclaration commune le 29 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et nous allons travailler maintenant à la constitution d'une alliance internationale la plus large possible pour faire vivre les droits nationaux du peuple palestinien. Car notre boussole, c'est bien le droit international. C'est vrai pour la Palestine comme pour d'autres régions du monde. Faire appliquer le droit international en Palestine n'est pas simplement une exigence et une nécessité pour les Palestiniens. C'est une exigence internationale pour faire appliquer partout les décisions de la justice internationale et faire vivre les instances du multilatéralisme mondial, faire vivre l'ONU sur la base de la Charte des Nations Unies. C'est une des questions des batailles internationales majeures qui sont en cours, alors que les forces d'extrême droite, celles des divers fondamentalismes religieux, partout à l'offensive, cherchent à imposer la loi du plus fort. Le monde est au bord d'un basculement dangereux pour l'humanité, et notre priorité sera toujours de faire respecter la justice et le droit. Cette exigence grandit, y compris au cœur du peuple israélien, où une mobilisation inédite appelle à l'arrêt de la guerre à Gaza, au retour des otages, au départ de Netanyahou et de son gouvernement. Nous réaffirmons ici notre pleine solidarité avec les forces de paix en Israël, parmi lesquelles figurent nos camarades du Parti communiste israélien et du Hadash. Nous portons avec vous l'ambition de travailler à la construction d'un rapport de force pour faire avancer ces exigences au sein du peuple français et des peuples européens. Et notre conférence d'aujourd'hui vise à construire un mouvement de paix large, influent, capable d'influer sur les décisions gouvernementales et de peser pour la mobilisation des peuples et des opinions. Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous m'avez demandé hier de vous donner de l'espoir. Et nous sommes ici réunis aujourd'hui pour porter cet espoir et pour vous donner cet espoir. Et ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple algérien avec ses représentants, et nous avons gagné. Ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour l'indépendance et la liberté du peuple vietnamien avec ses représentants, et nous avons gagné. Ici, dans ce lieu, le Parti communiste français a animé la résistance et la lutte pour mettre fin à l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. Et nous avons gagné. Et je vous le dis aujourd'hui, nous gagnerons avec vous cette bataille pour la reconnaissance de la Palestine et la liberté du peuple palestinien. Mes chers amis, chacune de ces batailles fut difficile et nous étions souvent seuls au départ, mais nombreux à la fin. Mais l'histoire nous a appris une chose, c'est que rien ne peut résister à un peuple qui aspire à vivre libre, qui défend sa liberté et son indépendance. Au nom de cet espoir, au nom de cette histoire, nous savons que vous gagnerez, que nous gagnerons. Ce jour doit être un jour d'espoir pour les peuples palestiniens et israéliens, l'espoir de vivre en paix et en sécurité. Vive l'amitié des peuples français et palestiniens, vive l'Alliance internationale pour les droits du peuple palestinien, vive la Palestine libre, démocratique et laïque.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Maintenant, écoutons Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, qui a porté son soutien à Rima Hassan.
Hier, avant-hier et comme depuis 18 mois, ce matin encore, le malheureux peuple palestinien encagé à Gaza a été assailli de bombardements dans cette série ininterrompue de crimes de guerre qu'à la fin, il faut appeler une tentative de génocide bien avancée. Et parce que le monde entier, faisant des phrases, les puissants de la terre, qui d'habitude nous régalent de leurs leçons de morale, distribuent les bons points entre les uns et les autres, devant ce massacre qui dure depuis 18 mois, n'ont rien à dire, et sont incapables d'y faire face. La France, abaissée par son incapacité à s'exprimer fortement et publiquement, en faisant la seule chose qui est en son pouvoir à cette heure, dès maintenant, qui est de reconnaître l'État de Palestine pour mettre en échec Monsieur Netanyahou. La France, qui devrait s'enorgueillir de voir 8 des siens monter sur un petit bateau sans autre arme que leur conviction, sans autre force que leur courage. Oui, leur courage que nous voulons saluer en face de gens qui sont capables du pire et qui l'ont déjà démontré. Comme il est indigne que dans cette circonstance, certains qui relayent les éléments de langage de l'ambassade d'Israël sur les télévisions et les radios osent parler de croisière. Avez-vous vu comment l'un après l'autre prend le mot croisière pour en garnir comme sur un collier de perles les infamies qu'il raconte, pour minimiser le courage qui s'exprime à cet instant? Oui, le courage, car la dernière fois qu'il y a eu une flottille, il y a eu 10 morts qui étaient désarmés, tout comme l'étaient les 12 d'aujourd'hui. À présent, il y a dans cet équipage de 12 personnes dont je veux dire la liste parce qu'ils nous représentent tous autant que nous sommes de tous les pays d'Europe et de quelques-uns du monde. Il y a Baptiste André, médecin français de l'hôpital de Marseille. Réva Villard, militant écologiste français. Pascal Morieras, marin français. Yanis Mamdi, journaliste français de Blast. Omar Fayad, journaliste d'Al Jazeera. Hüseyin Suyab Ordu, militant pro-Palestine turc. Yasemin Akarn, activiste pour le droit des réfugiés allemandes. Sergio Toribio, marin et activiste écologiste espagnol. Marco Van Rennes, marin et capitaine du bateau néerlandais. Thiago Avila, coordinateur de la flottille de la liberté brésilien. Et bien sûr, Greta Thunberg, activiste écologiste suédoise. Et Rima Hassan, députée insoumise européenne. Madame Rima Hassan représente le peuple français qu'il a élu. Benjamin Netanyahou n'est pas de taille ni à lui faire peur à elle, ni à nous non plus. Benjamin Netanyahou se croit tout autorisé. Et il a raison, puisqu'on lui autorise tout, y compris. Rima Hassan est députée européenne, et par conséquent, monsieur Benjamin Netanyahou, vous qui croyez que tout vous est permis, puisqu'en effet, on vous laisse faire ce que vous voulez, et que le président de la République française est capable à la fois de tenir une conférence sur les océans tout en vous laissant commettre un acte de piraterie, car attaquer un navire qui circule dans des eaux internationales, s'emparer de lui et des personnes qui sont à bord, est un acte de piraterie. Et que voit-on, puisque j'en suis là, puisque j'en suis à parler de nos autorités françaises? Que voit-on le Premier ministre nous dire « Nous avions prévenu des risques en raison des tensions dans la zone. » Mais enfin, on n'est pas en train de parler d'un voyage d'alpinistes qui seraient sortis des pistes. Nous sommes en train de parler de gens qui sont allés à main nue dans un petit bateau affronter un génocide et un blocus. Appelez les choses par leur nom. Appelez les choses par leur nom. Et alors, dans ces conditions, vous n'avez pas demandé le chapeau bas à M. Benjamin Netanyahou de bien vouloir permettre que les nôtres rentrent à la maison. Madame Rima Hassan est députée du peuple français et par conséquent, vous ajoutez à l'acte de piraterie dans les eaux internationales l'acte de détention de quelqu'un qui bénéficie d'une immunité du fait de son statut de parlementaire. Nous ne vous demandons pas poliment de nous rendre notre député. Nous vous ordonnons de respecter le droit, de le respecter à Gaza, de le respecter dans les eaux internationales et devant les obligations qui sont les vôtres. Alors, il paraît qu'on nous répond que ce n'est pas une arrestation. Alors qu'est-ce que c'est de saisir un bateau, d'arrêter les gens qui sont à bord et de les emmener dans une prison si ce n'est pas une arrestation? Avec qui pensez-vous que vous allez pouvoir jouer sur les mots, monsieur Netanyahou? Vous croyez seulement que vos perroquets et vos répondeurs automatiques qui s'expriment dans les médias représenteraient le peuple français? Le peuple français, le voici! Il est devant vous! Voilà la France! Honte à ceux qui parlent autrement des nôtres, de leur courage. Alors, oui, nous avons 3 demandes immédiates. Il faut lever le siège de Gaza. Il faut cesser le blocus. Aucune génération ne pardonnera à celle-ci le crime dont elle s'est rendue coupable en laissant faire et en n'intervenant pas pour arrêter ce meurtre de masse, ce génocide. Ensuite, nous croyons que la France doit, dès maintenant, reconnaître l'État de Palestine pour répliquer à l'arrestation des siens. Et bien sûr, je vais vous dire, exprimant, je crois, ce que beaucoup d'entre vous ressentent. Oui, nous craignons ce qui est en train de se passer là-bas. Oui, nous craignons, quand nous avons lu la déclaration des dirigeants qui entourent M. Netanyahou, qu'ils disent qu'ils vont emmener les prisonniers dans des voitures à vitres teintées pour éviter qu'il y ait des manifestations de joie populaire contre eux. Oui, nous craignons le pire, parce que nous les savons capables du pire. Le pire, c'est depuis 18 mois qu'ils le font. Et j'adresse un salut reconnaissant à ceux des Israéliens qui étaient hier devant l'ambassade de France à Tel Aviv pour mener avec nous la lutte et réclamer la fin du siège, la fin du blocus et la libération immédiate des 12 de ce bateau. Puisse cet instant rester gravé dans le cœur de chacun d'entre nous comme le souvenir extraordinaire de ce que le courage peut faire, de ce que ces femmes hardies, défiant la mort, les yeux dans les yeux, ont été capables de faire, c'est-à-dire en 24 heures, davantage que des dizaines de gouvernements, des dizaines d'armées qui restent les deux pieds dans les mêmes chaussures à regarder ce qui se passe. Gloire à la lutte, gloire à Rima, gloire à Greta et aux 12. Samedi, je vous demande d'être tous là de nouveau, samedi, pour un grand et immense rassemblement du peuple français au service des Palestiniens, comme le sont aujourd'hui même 160 regroupements dans tout le pays. Gloire à la lutte, seule la lutte fait vivre et tient debout.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Place maintenant au gouvernement avec le ministre des Transports Philippe Tabarot au micro de Romain Desarbres sur CNews et Europe 1.
Il est 8h13. Merci monsieur le ministre d'être avec nous, le ministre des Transports Philippe Tabarot. Bonjour.
Bonjour.
Invité de la grande interview CNews Europe 1, comme tous les jours, énormément d'actualités évidemment à balayer avec vous. Et on va commencer bien sûr par ce qui s'est passé cette nuit, les frappes israéliennes sur l'Iran. Quelles sont les conséquences en termes de transport?
Écoutez, l'espace aérien vers Israël être fermé très, très rapidement. Annulation de vol, bien sûr, des deux compagnies, à la fois françaises et israéliennes, par rapport à cette situation. Et puis, une forte inquiétude pour nos concitoyens français très nombreux qui habitent en Israël. Une situation que le Quai d'Orsay est en train de traiter à l'heure où on parle pour que tout le monde soit sécurisé, pour que les informations passent le mieux possible.
Est-ce que vous avez une idée de la durée de la fermeture de l'espace aérien israélien ?
Non, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et vous l'avez rappelé sur votre antenne ce matin, que ces frappes ont été brutales cette nuit, qu'elles vont entraîner un certain nombre de conséquences, que les États-Unis et l'Iran devaient se parler ce week-end. Les choses vont probablement s'accélérer. En tout cas, cette situation qui met en difficulté Israël, et chacun jugera si cette frappe ou ces frappes étaient indispensables ou pas pour se protéger. En tout cas, elles auront des conséquences sur nos concitoyens en Israël et sur les Israéliens en général.
Alors, je sais que vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères ni président de la République, mais Israël justifie ses frappes par son droit à exister et donc son droit à détruire les capacités nucléaires iraniennes. Parce que si l'Iran a la bombe nucléaire, elle l'enverra sur Israël. Vous défendez ce droit à la sécurité d'Israël, ce droit à l'existence d'Israël ?
Bien sûr, et la France l'a toujours défendu. Et à titre personnel, je le défends très fortement. Israël se retrouve dans une situation difficile, encerclé, et c'est pour ça que des raccourcis sur les positions d'Israël qui sont bien souvent en fait et qui sont les accusateurs, je dirais, d'Israël ne se rendent peut-être pas compte de la situation géographique, géopolitique que vous avez très bien expliqué sur votre antenne dans laquelle se retrouve Israël. Pour Israël, c'est une survie qui passe quelquefois par des actions comme celle de cette nuit. En tout cas, le principal aujourd'hui, c'est que les choses reviennent le plus rapidement possible à la normale, qu'on puisse avoir, je l'espère, rapidement un cessez-feu, parce que je pense à la protection des habitants d'Israël, de nos concitoyens.
Hier était organisé à Paris, sur la place de la République, un rassemblement pro-palestinien, avec uniquement des drapeaux palestiniens, lors duquel Rima Hassan, qui portait un keffieh, tel un voile islamique, a été accueillie comme une rockstar. Des slogans contre CNews ont d'ailleurs été proférés, ont été entendus. Comment est-ce que vous avez réagi en voyant cela ?
Cette situation prêterait à sourire si la gravité de la situation n'était pas celle que l'on connaît. Parce que de revenir en héros, de se comparer à des otages, tel que cela a été exprimé, totalement déplacé par rapport à ce que les otages israéliens vivent maintenant depuis de nombreux mois. Donc cette opération purement de communication avec Mme Greta Thunberg et quelques pseudo-humanitaires est d'un ridicule qui dépasse l'entendement. Pour autant, la situation et les mots qui ont été utilisés, le rassemblement d'hier soir, est grave, je trouve, pour notre démocratie. Et puis de mettre en cause un média, en l'occurrence le vôtre, de cette manière, est quelque chose de grave, notamment concernant la liberté d'expression, que ces personnes prétendent défendre régulièrement, sauf quand ça ne les arrange pas et quand certains médias disent des choses qui sont réelles par rapport à leur fonctionnement et par rapport à leur désamour de la France. On a l'impression que ces gens-là n'aiment pas la France et que les problèmes que nous rencontrons dans notre pays ne les intéressent pas et qu'ils s'attachent à des causes qui sont bien lointaines des causes nationales dans notre pays.
Philippe Tabarot, je décris l'image pour les auditeurs d'Europe 1. On voit Rima Hassan, donc députée, eurodéputée française, portant un keffieh, je disais comme un voile islamique, je pense que la référence est assez claire. Vous dites qu'elle ne défend pas la France ?
Non, ce qui me révolte, c'est que ces personnes sont élues par le peuple français. Ce sont des élus français qui sont censés représenter la France. Cette dame était députée européenne pour représenter la France à l'Europe. Et voilà ce qu'elle fait. Est-ce que vous pensez que c'est un combat qui aide notre pays aujourd'hui ? Sincèrement, en tout cas, moi, je ne le pense pas. Et je regrette que des élus de la République française se retournent par leurs agissements ou leurs propos contre leur propre pays.
Ils jouent contre la France, les députés ?
Ils jouent incontestablement contre la France. Ils le montrent pratiquement toutes les semaines au Parlement et à travers ce genre de manifestations qui sont totalement inacceptables.
Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. On va parler du drame qui s'est déroulé en Inde. Un Boeing 787 s'est écrasé hier en Inde avec 242 passagers à son bord. Il n'y a qu'un survivant. C'est le premier drame pour ce modèle, le Boeing 787 Dreamliner. Mais il s'inscrit dans la lignée de nombreux incidents, voire accidents pour le constructeur américain en grande difficulté. Nombreux d'ailleurs sont les usagers, les passagers à désormais privilégier Airbus, le constructeur européen. Question toute simple déjà. Quelle est votre réaction quand vous avez appris ce drame, premièrement, et ensuite des questions sur Boeing?
Oui, c'est vrai qu'on a tendance à maintenant faire attention par rapport à cette situation de se dire quel est l'avion accidenté, un Airbus, un Boeing. Il y a une loi des séries, nous avons l'impression, pour Boeing. Alors c'est vrai que cet accident est assez surprenant dans le sens où ce modèle n'avait jamais connu aucun problème. Le pilote était expérimenté. L'avion n'était pas vieux. La compagnie Air India n'est pas répertoriée comme une compagnie dangereuse, bien au contraire. Après, c'est vrai que c'est le mode de transport le plus sûr, mais quand arrive une catastrophe comme celle-là, elle prend une ampleur toute particulière. Et quelques jours avant l'ouverture du salon du Bourget, qui est le plus grand salon aéronautique, spatial et de défense du monde, cet accident en France a un impact particulier. Mais j'ai une pensée, bien sûr, pour les victimes, bien sûr les ressortissants indiens, les ressortissants anglais, et puis dans un drame, cette histoire assez extraordinaire de ce survivant qui est totalement improbable, mais qui est vrai.
Qui était installé sur la place 11A. Voilà, donc l'anecdote, évidemment. Est-ce qu'on est en sécurité lorsqu'on vole dans un Boeing? C'est bientôt le Bourget, c'est aussi bientôt les vacances. En tant que ministre des Transports, vous le savez, j'imagine. Vous allez transporter les Français qui partent à droite, à gauche. Est-ce qu'on est en sécurité lorsqu'on vole dans un avion Boeing, monsieur le ministre?
Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a eu la répétition d'un certain nombre d'événements qu'il y a des difficultés spécifiques. Alors certains modèles ont été rappelés, la maintenance est importante, et ce n'est pas parce que je défends bec et ongle au niveau international la compagnie Airbus qui gagne des parts de marché, qui va avoir un certain nombre de signatures pendant la semaine à venir au Bourget et beaucoup de commandes qui donnent de l'emploi dans notre pays, qu'on doit pour autant décrier cette grande compagnie qui est Boeing, qui a eu quelques incidents quant à la maintenance, mais qui œuvre à ce que les choses reviennent, je dirais, normalement pour, je le répète, un mode de transport qui est sécurisé, même si chaque accident d'avion nous marque particulièrement quand on sait malheureusement le nombre d'accidents qu'il y a sur la route quotidiennement en France, en Europe ou dans le monde. On est bien loin des chiffres des catastrophes aériennes.
Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Philippe Tabarot, la France a été secouée par ce qui est arrivé à Mélanie, tuée par un adolescent de 14 ans. Elle était surveillante dans un collège à Nogent. Elle a été tuée donc par cet adolescent de 14 ans. Déjà, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé?
Un drame supplémentaire qui vient après d'autres drames, avec la constatation qu'on est un certain nombre à faire enfin dans notre pays de manière collective, là où certains, notamment sur l'échiquier gauche ou extrême gauche de la vie politique, étaient dans une sorte d'angélisme et ont mis beaucoup de temps pour reconnaître cet ensauvagement de la société française. Le président de la République avait même parlé de décivilisation à une période. Il est évident que, sans pointer les responsabilités des uns et des autres, on a probablement une responsabilité collective dans ce qui arrive. Et puis surtout, on doit maintenant agir. On doit maintenant agir sur différents sujets, à la fois bien sûr la responsabilisation des parents qui ne doivent pas s'exonérer de leurs responsabilités. Je pense également à l'école qui ne peut pas tout faire mais qui a son rôle. Bien sûr, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, ce qui, à nous paraît moins essentiel parce que quelque part, on a connu les réseaux sociaux dans le courant de notre vie. Certains enfants ont été élevés avec ou par les réseaux sociaux ou par le numérique. Donc ça aussi, ça a influencé un certain nombre de comportements probablement. Je pense à la question de la santé mentale où mon collègue Yannick Neuder mène un combat conséquent et très probablement dans les établissements, il manque de référents à ce niveau-là. Et puis, puis la chaîne police-justice qui est indispensable, avec des signalements et puis des peines qui doivent être courtes, qui doivent être immédiates. Et en l'occurrence, je fais confiance à mes collègues Bruno Retailleau et Gérald Darmanin pour être réactifs sur ce sujet comme ils le sont toujours.
Philippe Tabarot, vous le rappeliez, le président de la République a parlé de décivilisation. Mais le soir du meurtre de Mélanie, il disait à la télévision qu'on en faisait trop avec les faits divers. Je résume sa prise de position, sa pensée, même si c'est parfaitement son droit, évidemment, de le dire et de le penser. Est-ce que c'était le bon moment ?
Écoutez, il était dans un autre cadre et sincèrement, je ne pense pas qu'il pensait à ces faits divers. Peut-être à d'autres actualités, comme il a eu l'occasion de le dire. Le président a eu des mots très forts et a été très affecté, comme nous tous, par ces situations. On ne peut pas être président de la République et ne pas se préoccuper de ces drames à répétition. On est concerné par ce qui arrive pour la plupart d'entre nous, dans une inquiétude folle de se dire que... Moi, j'avais une pensée, pour tout vous dire, à ces jeunes du collège de Nogent qui ont dû retourner à l'école hier et qui sont encore ce matin, après moins de 48 heures après ce qui s'est passé. Bien sûr qu'ils doivent avoir la boule au ventre et que tout parent a la boule au ventre quand il voit ses enfants partir, que ce soit bien sûr sur le collège, sur le lycée, et même des incidents dans les écoles primaires, ce qui est assez incroyable.
Ils ont justement du mal à comprendre quand le président de la République parle de brainwashing et de lavage de cerveau sur les faits divers.
Je pense sincèrement que c'est pas ce que le président de la République a souhaité dire. Je ne veux pas croire que, et pour avoir échangé sur ces sujets, entre autres, au Conseil des ministres, je peux vous dire qu'il est très mobilisé, que tout le gouvernement est mobilisé sur ces drames à répétition.
Je voulais vous entendre également, Monsieur le Ministre, sur nos sondages CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Des sondages chocs. On a découvert cette semaine que les deux tiers des Français souhaitaient qu'il y ait moins d'arrivées d'immigrés en France. Une question toute simple. Et vous, si on vous avait appelé, si l'Institut CSA vous avait appelé, qu'est-ce que vous auriez répondu ?
Moi, je suis...
Est-ce que vous êtes dans les deux tiers ou dans le tiers qui dit non, non ? Il n'y a pas... vous souhaitez qu'il y ait plus d'arrivées d'immigrés en France ?
Moi, je suis plutôt dans les deux tiers qui pensent qu'il ne faut plus d'immigration en France parce qu'on a un sujet, un souci d'assimilation aujourd'hui, d'intégration. On l'appelle comme on veut, chacun a sa sémantique sur ces sujets et qu'on a suffisamment de difficultés depuis un certain nombre d'années qu'il y a... chez nos compatriotes, une crainte par rapport à tout ce que l'on peut vivre et que ça doit être dans un cadre légal qui semble totalement dépassé. Après, on a quand même un sujet dans notre pays qu'on ne peut pas éluder totalement, qui est le problème du travail et des métiers en tension. Moi, je pense que les Français ne sont pas contre l'arrivée, le cas échéant, d'immigrés sur... de l'immigration de travail, de l'immigration pour des personnes qui souhaitent œuvrer pour notre pays, qui souhaitent également accepter et vivre dans notre culture.
Parce qu'il y a 500 000 étrangers qui sont inscrits au chômage en France.
Bien sûr.
Et certains disent, ils peuvent peut-être prendre des emplois
à juste titre. Non, mais je ne dis pas que la gestion et le traitement de l'immigration dans notre pays aujourd'hui est une réussite, loin s'en faut. Et qu'il faut mettre les choses à plat, que les personnes qui viennent dans notre pays, c'est soit parce qu'elles sont persécutées, mais de manière concrète dans leur pays, soit parce qu'elles viennent travailler dans des métiers en tension que quelque part nos concitoyens ne veulent plus assumer. Mais pour tout le reste, pour toute l'immigration clandestine et pour des immigrés qui viendraient pour profiter de nos prestations sociales et de ne pas travailler, je suis foncièrement et farouchement contre.
Je voulais vous entendre également sur les taxis, ministre des Transports, gros dossier. Une réunion s'est tenue mercredi matin au ministère de la Santé. Le gouvernement a proposé d'étudier avec les représentants de la profession de nouveaux calculs pour les conditions de rémunération du transport des patients. Une nouvelle réunion est prévue d'ici 15 jours. Les acteurs, les taxis, les représentants des taxis sont ressortis contents de ces discussions. C'est donc qu'on approche d'une sortie de crise ?
Je le souhaite de tout cœur. Je suis, comme vous le savez, depuis le premier jour en lien avec les taxis, notamment sur un autre aspect que le sanitaire qui est plutôt géré par mon collègue de la santé, oui. Mais sur l'aspect des relations à la fois avec les VTC, avec les plateformes, avec des pratiques illégales de la profession. Nous avançons sur ces sujets. J'ai eu l'occasion de les voir 4 fois déjà. Nous avons également d'autres réunions. Je souhaite qu'on sorte de ce conflit qui n'a que trop duré pour eux, pour nous, pour les usagers, pour les riverains. Quelquefois aussi, quand ils manifestent de manière un peu forte leur mécontentement. Donc, le dialogue est en cours à tous les niveaux et je souhaite qu'on puisse revenir à une situation d'apaisement et que tout le monde puisse sortir par le haut de cette situation.
Alors, ça paraît quand même compliqué de trouver une sortie de crise. On n'y est pas encore, alors que le gain ne sera que de quelques dizaines, centaines de millions d'euros. Vous y croyez vraiment aux 40 milliards d'euros d'économies promises par le Premier ministre ?
On y travaille avec nos collègues de Bercy, que ce soit le ministre de l'économie, la ministre des comptes publics. Nous nous voyons régulièrement. Il nous a été demandé de faire des économies conséquentes dans nos secteurs respectifs, ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, je pense que des efforts sont à faire encore au niveau du fonctionnement, mais on ne doit pas obérer notre capacité d'investir encore dans notre pays, d'investir en France. Et ça, c'est la tendance qu'on peut avoir de se dire on va reporter des investissements, en tout cas moins au niveau des transports. À travers la conférence des transports, je souhaite qu'on puisse dégager des sommes pour de l'investissement sur nos lignes ferroviaires, sur nos routes, sur nos autoroutes, sur nos routes départementales, sur nos ponts. Le transport a besoin d'investissements pour se moderniser et éviter une dette grise qui est en train de se développer de plus en plus.
Philippe Tabarot, ministre des Transports, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci, monsieur
Merci
le ministre.
À
Bonne
vous.
Journée, à bientôt.
Merci beaucoup.
La semaine politique Europe 1. Alexis de la Fontaine.
Enfin, écoutons Marine Tondelier, Cyrielle Chatelain et Mélanie Vogel, les 3 écologistes qui ont rencontré François Bayrou cette semaine pour discuter de la proportionnelle.
Eh bien, écoutez, on est là avec une délégation écologiste, 100% féminine, pour rencontrer le Premier ministre dans un rendez-vous qui est prévu de longue date pour parler de la proportionnelle. C'est la grande consultation du moment. Alors, sur la proportionnelle, vous connaissez notre position historique, c'est dans notre ADN, nous sommes pour la proportionnelle, nous la portons depuis le début du mouvement écologiste, depuis que nous existons. C'est un sujet qui est très important pour nous, démocratiquement. Mais ce qu'on va aussi dire au Premier ministre, c'est que de ce qu'on a entendu de ce qu'il voulait faire de la proportionnelle, nous n'allons pas exactement être d'accord, puisqu'il propose une proportionnelle départementale, une proportionnelle par département. Et qu'on se le dise, nous qui tenons au territoire et à la représentation juste de tous les territoires, une proportionnelle départementale n'est pas une vraie proportionnelle. Si vous habitez, comme moi, dans un département très peuplé, le Pas-de-Calais, ou dans des départements très urbains, il y a beaucoup de population, vous aurez une vraie proportionnelle. Si vous habitez dans des départements où il n'y a que 2 ou 3 parlementaires, alors vous n'aurez pas accès à une vraie proportionnelle. Et donc, c'est un scrutin qui serait inéquitable sur le territoire, et donc l'inverse de la conception que nous, nous faisons de la démocratie. Ce que nous allons donc lui dire, c'est que nous sommes pour une proportionnelle qui soit une vraie proportionnelle, par exemple pour une proportionnelle régionale. Nous avons déjà eu l'occasion de lui dire, moi j'en avais débattu avec lui à l'occasion des ce qu'on appelait les rencontres de Saint-Denis, où on était présents chacun en tant que chef de parti à l'époque, donc il connaît notre position et il la connaîtra encore mieux à la sortie. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on ne va pas faire semblant et faire comme si de rien n'était. Ce rendez-vous, il intervient après une semaine noire pour l'écologie, et une séquence noire pour l'écologie d'ailleurs qui continue cette semaine. Donc la semaine dernière, on a eu la fin du ZAN, la fin des ZFE, la reprise des travaux de la 69 qui sont passés à l'Assemblée nationale. On a eu cette loi Duplomb scélérate qui est une loi qui ne va même pas être examinée à l'Assemblée nationale alors qu'elle concerne tous les Français. Quand on dit, un coup dur pour l'écologie, quand l'écologie perd, c'est tout le monde qui perd. C'est votre santé, c'est votre environnement, c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Et on trouve complètement scandaleux, qu'on n'est pas du tout d'accord sur le fond avec ce texte, complètement scandaleux qu'il n'ait même pas le courage dans les yeux de débattre à l'Assemblée nationale avec des comptes rendus où ce soit écrit, on puisse dire dans 20 ans aux personnes atteintes de cancer, c'était écrit là, lui il a dit que l'acétamipride c'était bon, c'était pas un problème, elle a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. On veut des traces de tout ce qui se dit. Et eux, ils ne veulent pas de traces. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte et qu'ils savent bien que c'est impossible à défendre les yeux dans les yeux avec les Français. Donc, non seulement ce débat aurait dû avoir lieu à l'Assemblée nationale, Mais c'est même les Français qui devraient décider. Moi, je pense qu'il faut faire un référendum sur le sujet et dire aux Français, oui ou non, voulez-vous remettre dans l'environnement des substances qu'on a interdites parce qu'elles étaient cancérigènes, qu'elles étaient neurotoxiques, qu'elles passent la barrière placentaire et donc affectent vos fœtus dans votre ventre, parce qu'elles se retrouvent dans le liquide céphalo-rachidien des enfants et donc dans leur cerveau, parce qu'elles se retrouvent dans votre eau potable. Il faut avoir ce débat en tête à tête avec les Français, les yeux dans les yeux, qu'il y ait un débat national avec les études scientifiques et que chacun juge. Les chiffres, on les a, 80% des Français sont contre la réintroduction de ces substances. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et comme si ça ne suffisait pas, on enchaîne cette semaine. On a appris ce midi la suspension en urgence de MaPrimeRénov, ce dispositif qui permet à des Français de pouvoir isoler leur maison et payer moins de factures d'électricité. Eh bien, ils avaient baissé les budgets plusieurs fois en nous disant, on y était, Cyrielle, les yeux dans les yeux. Ça ne changera rien pour les Français. On baisse parce qu'il y a trop d'argent sur cette ligne. Les gens n'ont pas recours, donc il reste de l'argent fin d'année. Donc c'est une baisse qui n'impactera pas les Français. Bah, résultat, au milieu de l'année, ils suspendent en urgence parce qu'ils ont dépensé en 6 mois tout. Et donc il y a des Français qui ont commencé leurs travaux et à qui on va expliquer en juillet, vous n'aurez pas la subvention parce que c'est suspendu en urgence. Après avoir supprimé aussi la prime à la conversion automobile et la surprime pour les ZFE. Donc ça commence à faire beaucoup. Commence en plus ce week-end un grand sommet sur les océans. Les sénateurs auront l'occasion de débattre une proposition de loi à l'initiative des écologistes le 12 juin, non seulement pour faire adopter la taxe Zuckman, mais aussi pour parler des aires marines protégées, parce qu'Emmanuel Macron va faire le héros international de la mer, sauf que les 30% d'aires marines protégées qu'on a dans nos zones d'activités, dans nos zones économiques exclusives, bah en fait, il n'y en a que 0,1% en France hexagonale, où il n'y a vraiment pas de pêche, où c'est vraiment une aire marine protégée stricte. C'est des aires marines protégées où on pêche parfois même plus, c'est le cas dans la Manche, que dans le reste de l'océan. Donc ça n'a aucun sens. Et donc on voit bien, jour après jour, que ce gouvernement ne sait faire de l'écologie que par l'hypocrisie de la communication présidentielle. Donc on ne peut pas, vous nous connaissez, on a le mérite de la franchise, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et quand on a décidé de dire un truc, en général, vous nous connaissez toutes les trois, nous le disons, donc nous ne sortirons pas de ce bureau tant qu'on n'aura pas eu une explication de texte franche sur l'écologie. Comptez sur nous et on vous racontera ça à la sortie.
Bien, bonjour à tous et à tous. Après la longue liste énoncée par Marine Tondelier, des passages en force et des reniements de ce gouvernement sur la question environnementale, que ce soit sur le passage en force pour réautoriser les néonicotinoïdes, la suspension de MaPrimeRénov, ou encore le passage en force d'un texte qui va contre la justice pour imposer une autoroute complètement anachronique. Il y a quand même un certain malaise. Il y a un certain malaise avec un rendez-vous complètement incongru d'aller discuter avec le gouvernement le plus faible, le plus obtus, le plus climaticide d'une réforme de nos institutions. Mais on est là. On est là parce que la question de la proportionnelle, c'est un sujet effectivement historique pour les écologistes, parce que derrière la proportionnelle, c'est la question de la juste représentation des électeurs. C'est faire en sorte que chaque voix compte. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous défendrons la proportionnelle régionale qui permet effectivement cette juste représentation. Nous sommes là aussi pour rappeler au Premier ministre que cette culture du compromis qu'il appelle de ses voeux grâce à la proportionnelle, la sortie du conflit, ça se construit dans le temps. Que l'attitude qu'il a aujourd'hui, que le bloc gouvernemental a aujourd'hui de contourner l'Assemblée nationale, de passer en force, ce n'est pas construire une culture de compromis. Que si on veut aller au bout de cette logique, il faut également qu'il y ait un engagement et qu'il y ait un changement, notamment sur le vote de confiance. Si aujourd'hui on a un Parlement qui est maltraité, c'est parce que nous avons un gouvernement qui est illégitime par rapport au vote de juillet dernier. Et donc, oui, nous soutiendrons la proportionnelle, que nous continuons à soutenir un changement de constitution pour qu'il y ait une obligation de ce vote de confiance. Sans vote de confiance, il n'y aura jamais complètement la culture du compromis au sein de nos institutions.
Merci. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voulais revenir peut-être sur quelques points sur ce sujet majeur pour les écologistes et majeur pour les Françaises et les Français. Vous avez dû voir l'étude récemment sortie qui indique que les 3/4 des Françaises et des Français, 75%, sont favorables à une modification du mode de scrutin pour passer à la proportionnelle. Pour une raison assez simple, on a beau dire fréquemment chez celles et ceux qui sont opposés que ça intéresse peu les Français, la réalité c'est que depuis 2022 et la crise politique qui s'est mise en crise de régime dans laquelle notre pays est plongé, les Françaises et les Français ont bien compris que la proportionnelle était un des moyens de répondre à la crise politique et de faire entrer enfin la France dans ce que j'appelle le camp des démocraties normales, des démocraties parlementaires, où, comme l'a dit Cyrielle Chatelain avant moi, eh bien, les parlements sont élus à la proportionnelle et les gouvernements sont élus par les parlements après un vote de confiance qui est la pratique normale dans des institutions fonctionnelles et saines. Je voulais aussi rappeler que il y a, nous l'avons toujours porté parce que la proportionnelle, c'est le système qui garantit la représentation la plus juste, la stabilité la plus ancrée et au fond une culture politique de la responsabilité et de l'intelligence collective. Mais il y a une urgence à le faire aujourd'hui. Vous savez que la proportionnelle, que le scrutin majoritaire a été défendu pendant très longtemps en arguant que même s'il était très injuste, eh bien, il avait soi-disant deux avantages, garantir des majorités stables et puis laisser l'extrême droite en dehors du Parlement. Chacune et chacun voit bien qu'aujourd'hui, ces deux promesses ont volé en éclats depuis bien longtemps. On a aujourd'hui une instabilité qui est assez unique en Europe. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir la proportionnelle et certainement l'exécutif le plus instable de toute l'Union européenne. Et nous avons aujourd'hui le groupe d'extrême droite le plus grand qu'il n'y ait jamais eu en France. Donc aujourd'hui, non seulement le scrutin majoritaire ne tient plus ses promesses, mais au contraire, j'en suis convaincue, c'est grâce au scrutin majoritaire, si on ne change pas notre mode d'élection, que l'extrême droite pourrait demain arriver à avoir une majorité absolue au Parlement qu'elle n'a pas dans la société. Je vous rappelle que le scrutin majoritaire permet d'avoir, avec un peu plus de 30% des voix, 60% des sièges. C'est ce qui est arrivé aux macronistes en 2017. Et ça, aucune démocratie ne peut l'accepter. Et ce que nous voulons dire, c'est que nous sommes pour la proportionnelle, pour une vraie proportionnelle, ça a été dit, c'est important. La proportionnelle départementale qui est vendue, récitée comme étant un point d'atterrissage possible, n'est pas une vraie proportionnelle, simplement parce que la moitié des départements français auraient moins de 4 sièges. 4 sièges, c'est un seuil théorique pour être élu de 25%. D'accord ? Ça veut dire que toutes les voix en dessous ne sont pas représentées. Ce n'est pas du tout une vraie proportionnelle et ça amène à des écarts aussi importants qu'avec le scrutin majoritaire, avec en plus l'impossibilité de faire le Front républicain. Donc on a les désavantages du scrutin majoritaire et les désavantages du reste aussi, et aucun gain. Et enfin, je voulais juste revenir sur un point. Les reculs environnementaux de ces dernières semaines et qui se profilent ne sont pas à détacher des reculs de la justice sociale et des droits fondamentaux en général. Il y a une coalition aujourd'hui au niveau international qui s'attaque, et malheureusement le gouvernement français s'engouffre dans ce front-là, qui s'attaque contre aux politiques climatiques, aux politiques sociales et à la démocratie. Et si on veut passer enfin en France à un régime parlementaire sain, eh bien, il faudra aussi que celles et ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui aient bien conscience que eux aussi devront se mettre à un exercice de compromis et de co-construction. Et il est impossible que de cet exercice-là ressorte le fait qu'on réautorise des produits que personne ne veut en France et qui détruisent la santé des sols, la biodiversité et la santé publique. Et donc, bien sûr que nous sommes pour cette réforme démocratique, ça nécessite aussi une réforme de la pratique du pouvoir, et nous attendons aussi de voir des preuves de cela.
On va y aller. Merci.
La semaine politique Europe 1.
Alexis de la Fontaine.
Merci à vous d'avoir écouté Europe 1, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
Europe 1, pour vendre, acheter, louer ou gérer votre bien immobilier, vous vous adressez à qui ?
À Guy.
Qui ?
Guy.
Ok. Guy Hockey, l'immobilier.
Europe 1. Bienvenue à tous sur Europe 1, il est quasiment 6h et c'est le top départ d'Europe 1 matin week-end jusqu'à 9h avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Anthony Kazmarek, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Europe 1 matin week-end. Vous l'avez dit, 3h tous ensemble avec mon camarade Anthony, donc toujours à mes côtés, bien réveillé.
Oui, malgré les l'orage. Orages, hein.
Malgré la pleine lune, malgré tendu, l'orage. Ouais. Allez, c'est parti pour 3h d'information pour rester au cœur de l'actualité. Un journal toutes les demi-heures et des invités. J'accueille à 7h moins 2020, le colonel Olivier Rafovitch, les porte-parole de l'armée israélienne, après cette pluie de missiles qui s'est encore abattue cette nuit sur Israël depuis Téhéran. Et puis nous reviendrons sur les suites après la mort de cette surveillante de 31 ans, poignardée à mort par un élève de 14 ans à Nogent. Elisabeth Borne annonce un protocole de détection de la souffrance psychologique. Nous demanderons au ministre François-Noël Buffet, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, ce qu'il en pense. L'actualité dans Europe 1 Matin Week-end, vous la retrouvez aussi avec mes camarades chroniqueurs. Est-ce qu'il faut lire l'adaptation BD de Son odeur après la pluie? Oui, nous dira tout à l'heure Sébastien Bordenave. Et puis Mathieu Alterman sera également en notre compagnie parce qu'il y a tout juste 40 ans, nous célébrions le grand retour de Coluche sur les ondes d'Europe 1. Voilà pour l'essentiel, évidemment, on ne vous dévoile pas tout de suite. En tout cas, toute l'équipe d'Europe 1 Matin Week-end est là et c'est un véritable plaisir. On vous souhaite un excellent début de week-end et un bon réveil.